Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Et puis, je voudrais donner un prolongement à ce que nous avons médité ce matin. Le sujet, c'était les chemins de solitude. Alors nous allons donner une prolongation et pour commencer nous allons faire une lecture donc dans le livre du Deutéronome, toujours dans cette pensée que développée. Donc livre de Deutéronome, c'est dans les premières pages de notre Bible. Deutéronome chapitre 32, je vous ai pas donné, excusez-moi. Voilà, chapitre 32, verset 10. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré. Il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Je relis ce texte. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Ce matin, nous avions évoqué ce sujet. Et nous avions parlé donc de la solitude des hommes, de certains hommes qui ont traversé l'histoire de la Bible. Et nous avions souligné l'histoire de Jacob, où il s'est retrouvé face à lui-même, précisément dans cette nuit d'angoisse, dans cette nuit de solitude. Ensuite, nous étions passés à la solitude, les chagrins de la solitude en ouvrant cette page très, très touchante de l'histoire de Anne, dans cette attente de pouvoir être délivrée de sa stérilité. Nous avions parlé un peu plus tard de la solitude liée à la maladie, Job. C'était en effet un aspect des choses, donc, et Job nous en parle, de cette solitude terrible lorsqu'on est malade. Il y avait aussi la solitude après le succès, Élie, au Mont Carmel, qui va véritablement vivre une dépression morale et une dépression spirituelle de grande envergure. Nous avons parlé de la solitude de David, puisque c'était un homme qui était persécuté, qui était poursuivi, et la manière dont il a pu prier pour être délivré de sa solitude. Et puis nous avions également, toujours en parlant de David, de la solitude et des prisons de solitude qui nous amènent finalement à se renfermer sans espoir dans l'obscurité et avec tout cela que tout cela peut comporter. Et puis nous avions terminé sur un personnage, dernier prophète si nous voulons, de l'Ancien Testament, premier proclamateur de l'Évangile avant Jésus, Jean-Baptiste, et la solitude et le doute, qui était véritablement un profond questionnement parce qu'il ne savait plus du tout où il en était rendu. Alors ça, c'est la solitude des hommes. Nos solitudes à nous, elles sont humaines. Elles sont souvent l'expression d'un message de peine que nous voulons communiquer aux autres. Je suis dans la peine, je suis souffrant, je suis malheureux, je suis seul, en quelque sorte. Puis maintenant, nous allons voir quelque chose de tout à fait particulier. Je l'ai réservé pour cet après-midi. Ça rentre tout à fait dans le cadre de l'évangélisation. Après la solitude des hommes, on va parler de la solitude du Dieu Sauveur. Parce que c'est lui qui est la résolution de toutes nos angoisses, nos dépressions, nos solitudes. C'est lui qui est la solution, la résolution. Alors, pour ce faire, nous allons justement, nous arrivons à Jésus. Jésus, l'homme de toutes les solitudes, et on va le découvrir ensemble, l'homme de tous les mépris, l'homme de toutes les trahisons, l'homme de tous les reniements, l'homme de tous les abandons, l'homme de toutes les incompréhensions. Et nous voyons qu'il était entouré pourtant de la foule, de foule entière se pressait, mais il était toujours seul. Il avait ses disciples, il était aussi extrêmement seul. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 16 et au verset 32, il est dit ceci, et c'est Jésus qui parle de cette manière, « voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, dira-t-il à ses disciples, chacun de son côté, et vous me laisserez seul. » Vous me laisserez seul. Et pourtant, combien de manifestations? Eh bien, on a pressé Jésus, justement, de pouvoir l'accompagner, de pouvoir être avec lui dans sa présence. Et là, eh bien, il y a cette déclaration de Jésus. Et puis, il y a également, nous en reparlerons d'ici quelques instants, mais cette pathétique exclamation alors que Jésus est élevé, et il dira « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce n'est pas de la solitude, c'est de la solitude, la plus extrême des solitudes. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors Jésus, dès l'abord, nous pouvons le dire, a connu la solitude selon le caractère de sa mission. Je crois que ça fait partie de ce que Jésus était venu accomplir. Pour que nous soyons guéris de nos détresses et de nos solitudes terribles, il fallait qu'il passe par là. Oui. Il nous a dit à un moment donné, il fallait qu'il passât par Samarie, mais là, il n'est pas passé par Samarie, il est passé par la solitude. Il est passé par la mort, il est passé par l'angoisse, il est passé par tout ce que nous sommes à même de passer, pour simplement nous dire et nous remémorer que nous n'avons pas un grand sacrificateur qui ne puisse compatir à nos détresses ou à nos angoisses, parce que lui-même a vécu toutes ces choses, parce qu'il y est passé et il peut finalement nous ouvrir le chemin pour que nous en sortions. Et ce message cet après-midi, pour tous les gens qui sont mal dans leur peau, mal dans leur âme, mal dans leur conscience, dans leur pensée, dans leur esprit, dans leur âme, dans leur cœur, eh bien, mal de solitude, c'est pour nous dire que le Seigneur a la solution. Et ça, nous devons être convaincus, il a la solution. Et c'était dans son caractère, finalement, le caractère même de son message. Je voudrais ouvrir une parenthèse, si vous voulez servir le Seigneur, à quelque niveau que ce soit, vous allez connaître de grandes solitudes. Ouais. Vous pouvez avoir des amis, vous pouvez avoir des frères, des sœurs, vous pouvez avoir un mari, une épouse, vous pouvez avoir une famille, vous pouvez avoir toutes sortes de gens, vous pouvez avoir des collègues, mais vous verrez que on passe des moments de solitude, de grande solitude, où on est seul, on est vraiment seul, enfin, sauf celui qui est au-dessus de nous. Et on en parlera. Alors, on sait très bien que quand on suit Jésus dans son cheminement terrestre, dans ses pérégrinations, eh bien, il a recherché. Il a recherché des grèves désertes. Vous savez, il se mettait là auprès du lac ou auprès de je ne sais quel autre endroit. Il recherchait des grèves désertes au petit matin pour s'adonner à la prière. Tant de solitude aussi. Et puis, nous voyons que eh bien, quand les autres dormaient, nous savons ce qu'il faisait. Et il dormait, et lui, eh bien, il prenait cette direction de la montagne pour être aussi en solitude, être seul. Celle du jardin des Oliviers, c'est aussi, eh bien, une solitude morale, psychologique terrible. Et puis il se retirait à l'écart des heures entières pendant la nuit. Mais on sait très bien que l'autorité de son ministère, eh bien, s'est trempée dans l'isolement et dans le silence. Il y a des temps où il nous convient que nous parlions, que nous agissions, que nous soyons actifs, et il y a des temps aussi où nous avons besoin, eh bien, d'être en retrait. Et Jésus l'a souvent dit aussi à ses disciples. Il les a quelquefois interpellés, hein, alors qu'ils étaient remplis d'exaltation, de fièvre et d'enthousiasme, parce que finalement les démons étaient chassés. Et puis, il les a pris et leur a dit, maintenant vous venez à l'écart, hein, tranquille. À tel point qu'il n'a même pas le temps de manger, nous dit Luc. Donc, Jésus s'est fait ce ministère, entre autres, et bien justement dans cet isolement, dans le silence. Cependant, Jésus a connu une autre solitude, vraisemblablement. Plus redoutable, c'est la solitude qu'implique la honte. De quoi aurait-il pu avoir honte? Il était juste, il était saint, il était parfait, il était Dieu. Et pourtant, c'est une forme de solitude, si la honte. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un texte qui nous en parle. Un texte qui remonte, finalement, dans les temps de l'Ancien Testament. Un des plus grands prophètes de la Bible, de l'Ancienne Alliance, le prophète Ésaïe a bien écrit ceci. « Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. » Solitude. Quand vous êtes rejeté, méprisé, détournez le regard, détournez le visage, nous l'avons dédaigné. Alors, à l'heure de la dispersion, Jésus s'est retrouvé seul. Tous lui avaient tourné le dos parmi ses disciples. Eh oui, il les avait invités. Mais tant à Gethsémané et que dire encore de la croix, puisque finalement il n'y avait plus personne, encore moins, nous voyons que ses disciples s'étaient détournés de lui, certainement dans la pensée de la prophétie que je viens de citer d'Ésaïe. Et là, il ne reçoit aucune parole de réconfort, aucun regard de pitié. Cependant, eh bien, il nous est écrit dans notre Bible pour que nous puissions véritablement comprendre ce qu'a pu être la solitude du jardin de Gethsémané, du jardin des Oliviers. Prophétiquement, il avait été dit auparavant, « J'ai été seul à fouler au pressoir. » Et quand on sait que Gethsémané, ça veut dire pressoir à huile. « J'ai été seul pour fouler au pressoir et il n'y avait personne avec moi. » Personne ce jour-là. Si, il y avait des gens, mais ils dormaient tous. C'est quand même terrible lorsque nous vivons la solitude et que tous les autres sont en train de dormir, d'une façon ou d'une autre. Alors que l'on aimerait bien un regard, un sourire, un geste, et que finalement vous ne pouvez rien attendre puisqu'il n'y a rien à attendre, puisque plus personne n'est autour de vous. Alors seul, au petit matin de la trahison, vous comprenez, après avoir été livré, seul devant Caïphe, le traître, pourtant c'était l'autorité, la plus haute instance religieuse, seul devant Hérode, seul également face à Pilate, seul pour monter à Golgotha, hormis celui qu'on avait obligé, Simon de Cyrène, pour porter la croix, bien qu'il y avait beaucoup de monde, des curieux, des spectateurs, finalement, mais seul pour monter la Via Dolorosa, pour aller jusqu'au mont du crâne, seul dans l'agonie, seul également à expirer, au moment où finalement il rendra son dernier souffle. Alors, nous pouvons dire que le calvaire a été certainement l'épisode le plus solitaire. On pourrait parler d'autre chose. Marie et Joseph, à la naissance de Jésus, étaient bien seuls aussi. Oui, dans le désert, il était seul. Et puis, on pourra en multiplier, je reviens un petit peu en arrière, mais... Jésus, la solitude de Jésus. Il l'a vécu sous toutes les formes, dans différents aspects, dans différentes façons, en tous les cas, il l'a vécu. La veille, dans le jardin de Gethsémané, il a sollicité ses disciples à prier quelque temps, une heure avec lui. Une heure, c'est pas grand-chose. Et pourtant, c'était important, c'était très, très important. Et nous voyons que ils se sont tous endormis. Mais pourquoi ce sommeil? Pourquoi cet abrutissement, nous pourrions dire, et puis cette somnolence, comme ça, subite? Ah, je crois qu'il devait y avoir certainement dans cette nuit-là, dans ce jardin-là, en raison de celui qui était là et qui combattait pour que nous soyons guéris, que nous soyons délivrés, que nous soyons sauvés. Je crois qu'il y avait comme une pesanteur de ténèbres, comme on le retrouvera le lendemain, entre environ 3 heures où il nous est dit que le soleil s'est obscurci à ce moment-là. Mais là, c'était la nuit, c'était autre chose, c'est vrai. Mais c'était quand même le même phénomène, en quelque sorte. Et c'est toujours la même traduction du même message. Et pourtant, Jésus leur avait dit « Veillez et priez ». Oui. Une fois, il revient, ils ne sont plus là. Enfin, ils sont là, mais ils dorment. Une deuxième fois, une troisième fois, c'est tout. Alors, je crois que nous avons, à travers l'histoire de Jésus, l'histoire du Christ, le véritable antidote à la solitude, à nos solitudes quand nous y pensons. quand nous pouvons y songer de temps en temps en disant « mais moi aussi je vis la solitude, je suis seul parce que effectivement, sentimentalement, en raison de ceci, de cela, sur le plan professionnel, sur le plan social, dans bien des domaines, on se sent seul. Est-ce qu'une minute nous pourrions peut-être reprendre les textes et de dire « oui, je suis seul, c'est une réalité, on en a parlé ce matin, c'est une réalité, mais qu'a fait mon Sauveur ? Qu'a vécu Jésus ? Et il ne l'a pas vécu pour lui-même, il a vécu pour que moi, je puisse être délivré et guéri. C'est ça la grande différence. Ce n'est pas pour lui, mais c'est pour moi. Je dis bien que c'est l'antidote à toutes les solitudes. Les malheureux disciples étaient assoupis au temps de l'urgence. Imaginez-vous, s'il y avait un moment où ils devaient avoir les yeux ouverts, où ils devaient être à genoux, où ils devaient pouvoir regarder le ciel et supplier finalement les cieux, eh bien là, ils dormaient. Ils étaient complètement, eh bien, accablés, complètement neutralisés, assoupis au moment où le besoin d'amis est le plus nécessaire. Et vous avez remarqué avec moi que lorsque nous vivons des moments de détresse, des moments d'angoisse, des moments de solitude, il n'y a pas grand monde autour de nous. On ne peut pas leur en vouloir parce qu'ils ne le savent pas forcément, nos amis. Parce qu'ils ne l'ont pas vu, forcément. Parfois, il y en a trop. On a besoin d'un peu de calme et un peu de retrait. Et puis, ben, c'est le contraire qui se produit, parce que là où on aurait besoin de crier, de parler, de se confier, de dire « voilà, je traverse des moments difficiles, j'aimerais en parler avec toi, j'aimerais en parler avec vous ». Enfin, quoi qu'on ne peut pas dire ça à tout le monde, hein, vaut mieux faire attention. Mais néanmoins, on sait qui peut entendre, qui est capable d'entendre, qui est capable de supporter et qui est capable d'être aussi, parfois inspiré par le Seigneur pour donner vraiment aussi les réponses que nous attendons. Ça peut, et Dieu peut nous conduire dans ce domaine. Alors, Jésus n'a plus personne à ce moment-là, il est vraiment solitaire, pendant que tous les autres sont en train de dormir. Pourtant, il avait dit, « Vous me laisserez seul. » On entend la véhémence d'un Pierre, quand Jésus dit, « Bien voilà, je serai livré, on me crucifiera, etc. » On voit la réaction de Pierre, mais s'il y en a un qui doit rester, ça sera certainement moi le dernier, hein. Quoi qu'il en soit, et on voit que avec un petit chant de coq, tout disparaît. Hein. Pauvre Pierre, il croyait qu'il était suffisamment fort. Vous me laisserez seul. Cette déclaration, que ta volonté soit faite, est le point culminant d'une nuit de lutte en solitaire. Que ta volonté soit faite. Retire la coupe. Enlève finalement cette fatalité, enfin, ce qui doit arriver, ce que je dois accomplir, Seigneur. Mon Père qui est dans les cieux, retire cette coupe. Non. Que ta volonté soit faite, ça a été le dernier mot, point culminant. Et cette déclaration de Jésus ne représente que l'acceptation absolue à la volonté de Dieu, dans le désir d'accomplir, car Jésus sait que dire oui à Dieu, oui à son Père, va changer la solitude en un défi. Et je répète, parce que c'est important dans notre méditation ce soir, c'est que Jésus a montré qu'il pouvait changer les affres de la solitude, l'amertume de la solitude, les peurs, les craintes, les angoisses, l'épouvante de la solitude, en un défi à relever. Et il va le faire. Il aurait pu reculer, plus personne n'était à côté en disant « Mais mon Père qui est dans les cieux, tu m'as donné des amis, des disciples, ils sont même pas là, ils dorment. » Comment veux-tu que j'aille au bout de mon plan, du plan que tu m'as donné d'accomplir ? Jésus a compris. Et il nous donne la clé, les uns et les autres. Je sais que ce n'est pas facile d'être seul. Je suppose que ça doit être très pénible. Quelquefois, je le dis avec mon épouse, c'est vrai que c'est formidable de pouvoir vivre à deux. Enfin, quand on s'entend, hein. Autrement, le contraire, c'est peut-être pas forcément. Hein, mais c'est vrai, c'est une grâce de Dieu. Moi, je voudrais dire, il n'y a pas beaucoup de jeunes, mais j'aurais leur dire, vous savez, choisissez bien et mariez-vous bien, parce que c'est vraiment votre bonheur dans la vie. Dans un temps où on méprise, on piétine le mariage, ben moi je dis que ça reste quand même une grâce et quelque chose de formidable. C'est vrai. Et ça, faut y croire. Il faut y croire, parce qu'on entend des vents contraires aujourd'hui. Alors, je dis que c'est certainement très difficile pour... Moi, je pense au vieillard qui, un ou l'autre, perd son compagnon, et se retrouver tout seul après une vie. Pas facile, hein, surtout que Quand on est certainement à un grand âge, on est comme des enfants dans ce sens, excusez-moi avec le respect, mais on est fragile. Et c'est à ce moment-là que va se produire la séparation, on va se retrouver seul. On doit penser à ceux qui passent par le deuil, à ceux qui connaissent ces solitudes de la séparation après des années, des décennies. Eh oui, c'est pas évident. Et puis, celui qui est seul et qui est malade, à qui il ne peut même pas se faire la nourriture parce qu'il n'a même pas les forces physiques. C'est bien d'avoir des amis autour de soi qui vous aident, hein, ou d'avoir un compagnon, une compagne, enfin un mari ou une épouse. Vous savez, tout ça, c'est l'histoire du monde, c'est l'histoire de tous les jours. C'est l'histoire de ce que l'on a, finalement, autour de nous. Les gens sont malheureux, hein, plus qu'on le pense. En façade, on montre rien, mais au fond des cœurs, il y a des tempêtes, il y a des tourmentes, hein, il y a des choses qui sont terribles. Et c'est bien justement pour ça que nous en parlons. Que nous en parlons cet après-midi, parce que nous sommes à même de connaître la solitude sous un aspect ou un autre. Et la solitude reste toujours quelque chose qui est une peine, une souffrance, une douleur. Mais nous avons que, dans ce que nous sommes en train de méditer, Jésus va transformer par son acceptation de la volonté de Dieu, il va transformer, eh bien, la solitude en un défi. Et quel défi ? Quel défi ? Crier sa solitude à la croix, pour offrir le moyen de sortir de tous les découragements de la vie. Et il a crié, Jésus. Et vous savez ce qu'il a crié ? Eh bien, ce que nous avons lu tout à l'heure. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On l'a lu ce matin. « Ma mère m'abandonne. » D'une façon ou d'une autre, hein, on l'a lu ce matin. Et Dieu dit « quand bien même une mère abandonnerait son enfant, moi je ne t'abandonnerai pas. Je t'ai inscrit, je t'ai gravé sur mes mains. » Vous savez que nous avons été appelés par le Seigneur. Et vous savez que notre nom, que notre vie est gravée sur les mains de Dieu, à travers les meurtrissures de Jésus. Et ça, nous devons nous en souvenir. Parce que quand on voit notre misère, quand on voit la misère des autres, et quand on voit la souffrance de Christ pour notre affranchissement, mais tout est accompli. Tout est accompli, il n'y a qu'une chose dont nous avons besoin, c'est d'y croire. C'est de le recevoir dans une foi complète et totale. Et Jésus a crié à la croix pour nous donner le moyen, en entendant ses paroles, de sortir de tous nos découragements, de toutes nos solitudes. Tous les abandons, tous les reniements, toutes les trahisons, tous les mépris que nous pouvons connaître. Mais Jésus dira aussi dans un autre texte, on l'a lu, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et puis, voilà, je ne suis pas seul. Parce que si les hommes nous abandonnent, nous pourrions être vraiment seuls, complètement seuls au monde. Il y en a un qui ne nous abandonnera jamais. Dans le livre des Hébreux, il y a cette parole qui proclame éternellement et qui proclame universellement « Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. » Est-ce que nous voulons vraiment saisir la portée de ces paroles ? Moi, mes mots sont faibles, mais je crois que le Saint-Esprit, la voix du Saint-Esprit peut aller beaucoup plus loin dans nos cœurs et dans nos consciences. Et c'est ça ce que nous avons besoin d'entendre. Cependant, la plus extrême des solitudes reste encore à venir, celle d'être séparé, et je reviens un petit peu en arrière, de la présence du Père, quand il a senti cet abandon, alors qu'il était certainement, eh bien, dans ses souffrances indicibles, alors qu'il avait devant les yeux des gens qui se moquaient de lui, qui criaient, qui vociféraient, qui l'injuriaient, qui l'insultaient, à droite et à gauche d'ailleurs, et qu'il a pu peut-être proclamer ces paroles, « Mais Seigneur, mais comment tu as pu m'abandonner ?» Mais l'abandon de Dieu n'est que illusion, n'est qu'une impression, parce que Dieu est le Dieu de la vérité, quand il dit une chose, il ne la renie pas. Rejet horrible, absence insoutenable de Jésus à la croix du calvaire, mais j'ajoute, momentané. Momentané. Et c'est vrai que quand on souffre, quand on sent vraiment la brûlure, la flamme de la solitude qui nous ronge, qui nous dévore, c'est long, hein. C'est très long. Et je sais qu'il y a certainement parmi nous des frères et des sœurs qui vivaient depuis longtemps dans cette brûlure intérieure. Mais je voudrais vous dire, excusez-moi l'expression, mais je voudrais vous dire que Dieu a un temps. Dieu a un temps. Et pourquoi ce temps? Pourquoi, Seigneur, permets-tu que j'attende? Pourquoi permets-tu que je vive cela? Eh bien, le Seigneur est en train de faire notre tempérament, notre caractère. Et quand il va nous donner ce que nous attendons, je peux vous dire que ça va vraiment être le cadeau de Dieu. Vraiment. Ce que quand Dieu donne, il donne bien. Et après, nous regardons en arrière, nous avons oublié les souffrances de nos solitudes et de nos angoisses. Et lorsque nous regardons à ce moment-là, nous ne pouvons dire qu'une chose. Mais Seigneur, tu avais raison de me faire attendre. J'ai été appelé au ministère, j'avais une vingtaine d'années. Je suis rentré, j'avais 38 ans à plein temps, parce que c'est pas pour ça que j'ai pas travaillé avant. Puisque je travaillais dans la vie sociale et puis je travaillais aussi dans l'œuvre de Dieu. Je faisais des réunions, etc. Mais à plein temps. Quand j'avais tout jeune, 20 ans, je voulais y aller. Je dis, Seigneur, mais c'est pas possible, je vais y aller tout de suite. Et puis bien, il a fallu passer par une autre école. Et c'est vrai que ça a été long, 16 ans, ces années, c'est quand même pas, imaginez-vous, surtout quand on est plein de feu, etc. Vous voyez maintenant, vous dites, Alain, il est grand-père, il est... Mais attendez, vous m'avez pas connu quand j'étais plus jeune. Oh là là, je faisais plusieurs choses à la fois. Grand-père, je le suis. Mais une chose qui est certaine, c'est que c'était quelque chose qui me dévorait. Mais Seigneur, pourquoi je dois attendre? Pourquoi ceci et cela? Oh, j'ai souvent entendu cette parole qui m'est revenue sous les yeux. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Oui. D'accord. Mais bon, je veux dire que quelque part, c'est vrai que je me sentais tellement seul dans cette situation, surtout que, bon, mon épouse voulait pas m'accompagner, elle voulait pas que je rentre dans le ministère. Alors donc, vous savez tout maintenant. Mais bon, elle est rentrée quand même. Voilà. Mais le Seigneur a voulu que je rentre, moi je voulais plus et Myriam voulait. Alors bon, c'est ça le problème. Mais c'est toujours comme ça. Mais bon, ça finit par marcher, je peux vous dire, parce que quand le Seigneur fait les choses, il les fait bien. Et c'est vrai que ce n'est que momentané, même si ça dure 16 ans. Parce que bon, les choses se sont accomplies selon le plan que Dieu nous avait donné, il m'avait donné dès le départ, alors que j'étais encore à Amsterdam, à ce moment-là, je sentais qu'il y avait quelque chose et ça s'est fait. Alors voilà maintenant ce que Dieu peut faire, et les fruits du défi qui est relevé. Parce que Jésus, c'est vrai, va vivre cette solitude terrible jusqu'à la fin, en prononçant même ces paroles. Pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il dira, mais tout est accompli, comme s'il y avait là la conscience que, il avait été jusqu'au bout. Eh bien, figurez-vous que, en tant que solitaire, il ne va pas rester solitaire. Il ne va pas rester solitaire parce que les fruits, vont mûrir à ce moment-là, vont mûrir. Parce que bientôt, Jésus va ressusciter. Et il va être entouré d'abord par des anges. Il est plus seul, ce sont des anges. À la résurrection. Et puis, quelques instants, quelques temps après, il va être accueilli par ses disciples qui sont éberlués. Ils n'en croient pas leurs yeux. Il est ressuscité. Après avoir été 11 au départ, ensuite ils sont devenus 120 à la chambre haute, référence à la Pentecôte, et puis après ils ont été 500, nous dit le livre de Paul aux Corinthiens. Après, plus de 3000. Et puis, ensuite, des milliers, des millions et des millions et des millions, et je crois que depuis 20 siècles, qui a marqué l'ère chrétienne, je pense qu'il y a quelques milliards à travers l'histoire. Oui. Diffusés dans le temps, dans l'espace, dans les sociétés. Des millions de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Jésus a connu la solitude pour qu'ensuite, il y ait un peuple qui l'entoure. Il y a des nations qui l'entourent. Il y a des hommes et des femmes qui soient autour de lui parce qu'il est le centre. Après avoir connu la solitude et le rejet. Autour de l'agneau, nous dit le livre de l'Apocalypse. Jadis solitaires et rejetés, maintenant ils sont là pour le glorifier éternellement. Ésaïe 43 nous dit ceci. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Moi, je crois pertinemment, et je ne veux pas que ce soit que des mots, je ne veux pas que ce soit des effets de manche, si vous comprenez ce que je veux dire. Mais je crois que pour vous qui souffrez de la solitude, Dieu est en train de tracer un chemin dans votre désert. parlé de Bartimée qui était hors du chemin vendredi soir. Et quand il a rencontré Jésus, il était dans le chemin. Et Dieu vous a préparé un chemin pour vous particulièrement. Et il fera courir des fleuves dans la solitude. C'est-à-dire qu'il va vous donner ce dont vous avez besoin. Des fleuves dans la solitude. Dans le livre des Galates, c'est une exclamation. On dit que c'est une belle Il faut le regarder, c'est vrai, à vue humaine. Et ça, ça nous semble quelquefois du temps perdu. Mais il faut le regarder aussi avec une autre vision. C'est que nous avons été appelés pour l'éternité. Et Dieu est en train de nous préparer pour autre chose. C'est vrai que quelquefois, eh bien, on pleure. On verse des larmes et on se dit pourquoi ? Pourquoi cette solitude ? Pourquoi ces angoisses ? Pourquoi cette souffrance ? Pourquoi ceci et cela ? Mais c'est parce qu'il y a quelque chose en préparation. Alors je dirais tout simplement, la solitude peut être vaincue. En tous les cas, elle a été vaincue par Jésus, c'est à nous de nous l'approprier. Et vous savez le moyen ? Et vous l'avez déjà dans les mains, vous l'avez au fond de votre cœur, c'est la foi. Tout simplement. Vaincue par différentes manières, de différentes façons. Vaincue suprêmement par Jésus, mais peut-être en attendant la réalisation de quelque chose qui nous tient dans la solitude et qui nous fait souffrir aujourd'hui. Je crois que la Bible est là pour nous parler qu'il y a aussi de la part de Dieu des éléments, des agents ou tout simplement des moyens de vivre et de supporter et de vaincre la solitude. Qu'est-ce que vous pensez de la communion fraternelle ? Elle n'est pas faite pour rien. Ah ben bien sûr, ça ne sera jamais. Comme Anne disait, son mari lui disait « je t'aime ». Il lui disait « bah oui, mais ça ne remplacera pas un enfant ». L'amour d'un mari, c'est l'amour d'un mari, et l'amour d'un enfant, c'est l'amour d'un enfant. Oui, mais Dieu est en train de préparer les choses, figurez-vous. Ou l'amour d'une épouse, hein, comme vous voudrez. Hein. Il y a aussi l'hospitalité pour ceux qui sont seuls. En cherchant le bien-être des autres, on s'investit sur la terre, et on investit sur la terre, pardon, et l'énergie, finalement, eh bien, c'est de pouvoir apporter aux autres ce dont nous avons besoin pour casser la solitude de certains. Vous me direz le mariage. Bien sûr que le mariage, c'est aussi une solution de Dieu. C'est une noble réponse, ainsi que la famille, mais tout le monde ne se marie pas. Mais le Seigneur, lui, peut donner la réponse à tout cela. Et puis, il y a aussi quelque chose qui peut nous aider à vivre dans ces moments d'attente. C'est la certitude de la proximité de la présence de Dieu. Premièrement, vous connaissez Matthieu 28, chapitre 28 et verset 20, je ne vais pas vous le citer, vous connaissez. Mais quand j'entends l'apôtre Paul dire dans l'épître aux Éphésiens, le Seigneur est proche. C'est pas seulement de son retour, mais le Seigneur est proche parce qu'il est à côté de moi. Il est beaucoup plus proche que je le pense. Et dans sa présence, je peux m'apaiser, je peux trouver la joie, je peux trouver la paix. Et puis il y a cette promesse de consolation. Jésus nous dit également, je ne vous laisserai pas seul. En d'autres termes, il prendra un mot qui est tout à fait caractéristique des gens qui souffrent de solitude, les orphelins. Oui, les orphelins. Et ça doit être quelque chose de terrible, de ne pas connaître son père ou sa mère. Hein ? Ça doit être quelque chose de terrible quand on les a connus et qu'on les perd. C'est encore une autre souffrance. Mais Jésus nous dit, je ne vous laisserai pas seul. Je viendrai à vous. Et je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit, il sera avec vous et il sera en vous. Mes frères et sœurs, vous êtes baptisés du Saint-Esprit, vous êtes nés de nouveau, vous êtes repentis, vous êtes convertis à Jésus-Christ, le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Une dernière phrase, un dernier mot. Il m'a trouvé dans une contrée, dans une situation, dans un état, je paraphrase, dans des circonstances de désert. Il m'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. C'est vrai que la souffrance, c'est la souffrance. Et on n'a pas à mépriser ceux qui souffrent et ce qu'ils disent dans leur souffrance. Il m'a entouré, il a pris soin, il m'a gardé comme la prunelle de son œil. Vous ne trouvez pas que c'est une parole d'amour de la part de Dieu, ça ? Parce que quand il est dit « il », c'est qui ? C'est Dieu ? C'est le Seigneur ? C'est Jésus-Christ ? Ouais. Il m'a trouvé. Bénissons le Seigneur de ce qu'il nous a trouvé. Bénissons le Seigneur de ce que, eh bien là, véritablement, il est venu nous extraire de notre solitude aux effroyables hurlements, comme cela nous est dit. Il m'entourait comme des parents peuvent entourer un enfant, parce qu'il l'aime. Il a pris soin de moi, et il m'a gardé comme la prunelle de son œil. Le Seigneur a des bonnes intentions pour chacun d'entre nous. Nous ne comprenons pas toujours les choses, mais il a de bonnes intentions, il est meilleur. Quoi qu'il en soit, alors je voudrais conclure en disant, en souscrivant tout à fait avec la parole du prophète quand il est dit ceci, « J'ai recueilli tes paroles et j'espère que cette parole pourra vous faire du bien, mes frères et sœurs. » Et puis tous ceux qui vont l'entendre parce qu'elle sera diffusée. « Alors, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. » C'est très fort, hein, dévorer, c'est pas manger, hein. C'est pas goûter. C'est dévorer, je les ai prises. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Voilà le vainqueur de la solitude et de toutes ces angoisses. C'est parce que Dieu nous a donné la joie et il a transformé nos peines en joie et nos détresses en allégresse. Que le Seigneur nous bénisse cet après-midi. Que le Seigneur nous bénisse, on va prier. Et je vais prier particulièrement pour ceux qui ont besoin de vivre et de dire, et puis si vous voulez souscrire, eh bien vous prenez cette dernière parole. Tes paroles, Seigneur, ont fait l'allégresse et la joie de mon cœur. Alors c'est cela, c'est là-dessus qu'on va prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté et ta fidélité parce que tu nous as entretenus, Seigneur, sur un fait qui est un fait de notre temps, un fait de tous les temps, la solitude des hommes. Oh Seigneur, nous croyons qu'à l'origine de cette solitude, c'est parce que, c'est vrai, Père éternel, par le mal et le péché, notre désobéissance, nous avons lâché la main de notre Dieu qui voulait être avec nous, qui voulait nous accompagner. Alors Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, nous vivons 1000 morts, 1000 souffrances, 1000 solitudes. Parce que, Seigneur, c'est ainsi. Mais une chose qui est certaine, c'est que comme tu nous l'as rappelé, c'est que tu nous as trouvés. Et ça, c'est extraordinaire. J'ai été trouvé par Dieu. J'ai été trouvé pour qu'il me garde. J'ai été trouvé pour qu'il me bénisse. J'ai été trouvé pour qu'il me sauve. J'ai été trouvé pour qu'il me pardonne. J'ai été trouvé pour qu'il me guérisse. De tous les maux, Seigneur, qui peuvent m'affliger. Je te rends grâce et je te remercie parce que c'est bien à la croix que nous trouvons la solution. Et tant que nous prêcherons la croix, tant que nous prêcherons Christ mort et ressuscité, alors à ce moment-là, nous aurons toujours la vie. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Je te prie de donner la vie à mes frères et mes sœurs qui sont en suffocation en ce moment, qui sont là, Père éternel, asphyxiés par un problème qui les domine. Ou, Seigneur, véritablement, ils se sentent diminués, ils se sentent avec un manque. Mais Seigneur, c'est toi qui peux véritablement, eh bien, les interpeller pour leur faire du bien. Et nous te demandons tous ensemble que tu fasses du bien à mon frère, à ma sœur, à celui qui est âgé, à celui qui est plus jeune, à celui qui souffre, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, et dont la solitude est un désastre. La solitude est une dévastation. Mais Seigneur, tu nous as appris encore cet après-midi. Tu nous l'as montré, tu nous l'as redit, qu'en effet, eh bien, tu avais transformé la solitude en un formidable défi de victoire. Et donne-nous la foi, Seigneur. Merci Jésus, parce que la joie et l'allégresse, je veux qu'elles soient au fond de mon cœur, à cause de ta parole que j'ai entendue. Amen.